Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M, ravie de vous retrouver cette semaine encore pour vous présenter le National qui regroupe, vous le savez maintenant, des sujets qui nous semblent d'intérêt général pour tous les francophones au Québec et au Canada. Vous les avez peut-être déjà entendus, ces sujets, on vous les a présentés cette semaine sur nos ondes, mais vous avez peut-être envie de les réentendre, alors voici. Pour commencer d'abord, c'était dans le cadre de l'émission « Aime la vie » du 30 octobre dernier. Je m'entretenais avec la docteure Julie Powell, présidente de l'Association canadienne de dermatologie, qui a démystifié pour nous le psoriasis. Je vais maintenant m'entretenir avec la docteure Julie Powell, qui est tout à fait la personne pour nous parler exactement du psoriasis, puisqu'elle est elle-même dermatologue à l'hôpital Sainte-Justine et qu'elle est aussi présidente de l'Association canadienne de dermatologie. Docteure Julie Powell, bonjour.
Bonjour, madame.
La première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le psoriasis exactement?
Bien, le psoriasis est une condition cutanée, chronique, qui donne des plaques qui sont rouges, squameuses, vous avez des plaques rouges qui ont une desquamation, qui peut couvrir différents endroits du corps, mais typiquement, ça va atteindre le cuir chevelu, les coudes, les genoux, et assez souvent une atteinte des ongles.
OK. Et ça peut toucher tout le monde? Est-ce que tout le monde peut être du jour au lendemain tout d'un coup atteint par le psoriasis?
Bien, le psoriasis, c'est une condition qui est probablement en grande partie causée par une prédisposition génétique.
OK.
Et cette prédisposition génétique est influencée par des facteurs externes. Et on dit qu'il y a une incidence d'à peu près 3 à 5 % de la population qui est susceptible de faire du psoriasis.
D'accord. Est-ce que les jeunes peuvent faire aussi du psoriasis? Il me semble que j'entends rarement parler d'enfants qui font du psoriasis.
Le psoriasis peut se manifester à tout âge, mais c'est vrai que les psoriasis plus sévères sont quand même moins fréquents chez l'enfant que chez l'adulte.
D'accord.
Un exemple de psoriasis, ça peut même être en période infantile, des fois dans la première année de vie, sous la région de la couche. Le psoriasis peut se présenter très jeune par une éruption assez caractéristique au niveau de la couche. Et aussi chez l'enfant plus vieux, à la suite d'une infection, il y a une forme de psoriasis assez aiguë qu'on appelle un psoriasis en goutte, qui est caractéristique du psoriasis de l'enfant peut-être entre 5 et une quinzaine d'années.
D'accord. Quelle est la différence entre psoriasis et eczéma? Parce que, on a peut-être tous eu l'occasion de voir des gens qui font de l'eczéma, d'autres qui font du psoriasis. Et moi, qui n'y connais rien là-dedans, il faut bien le dire, mais j'ai l'impression que c'est très proche. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort?
Bien, les lésions cutanées, si on regarde une lésion individuellement, oui, ça peut se ressembler, parce que ça donne des placards qui sont rouges, qui desquament. Mais ce sont deux conditions qui sont distinctes. L'eczéma en général qu'on appelle l'eczéma atopique, est une condition qu'on voit en association avec d'autres maladies, telles que l'asthme, la rhinite atopique et une susceptibilité aux allergies. Et en général, l'eczéma donne beaucoup plus de démangeaisons, de prurites que le psoriasis. Je crois que le psoriasis peut aussi avoir un certain inconfort.
Bien sûr. J'entends que vous parlez d'une condition, donc on ne peut pas parler d'une maladie. Le psoriasis, en tant que tel, n'est pas une maladie?
C'est une maladie, oui, d'un certain côté, parce
que
le psoriasis ne touche pas que la peau. Il y a quand même une incidence assez élevée d'arthrite qui peut y être associée. Et on reconnaît, une forme d'arthrite qui peut être assez mutilante. Et il est important chez les individus qui souffrent de psoriasis qu'on s'attarde à cette complication qui est possible et de la détecter précocement. Et on commence à reconnaître aussi qu'il y a d'autres susceptibilités, entre autres une susceptibilité à des conditions cardiaques, maladies cardiaques, et à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est en fait la susceptibilité au diabète, à l'obésité.
Et ce qui est très, très invalidant, Dr Powell, c'est de voir le nombre énorme de patients, 5 patients sur 6, qui déclarent être victimes de discrimination ou d'humiliation en raison de cet état. Ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé vraiment mirobolant. C'est énorme.
Oui, mais ça représente la réalité.
Ça représente la réalité.
Ces conditions-là, les conditions cutanées, en général, sont des conditions qui sont visibles, contrairement au diabète ou contrairement à bien d'autres maladies. Et les gens qui sont souvent pas très bien éduqués vont peut-être penser que c'est contagieux, vont penser que c'est dû à des facteurs que la personne aurait pu éviter. Et justement, la discrimination, le harcèlement, l'intimidation que les gens peuvent vivre est réelle. Mmh. Et ça peut mener les gens à l'isolation et même à de la dépression.
Bien sûr. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de désinformation en ce qui concerne le psoriasis?
Mais c'est de la désinformation ou plutôt un manque d'éducation.
Un manque d'éducation,
oui,
bien sûr.
Bien sûr.
Bon, est-ce qu'on peut guérir du psoriasis, Dr. Powell?
Je pense qu'on peut jamais dire qu'on guérit définitivement de cette condition, mais on a fait dans les dernières années de grands progrès au niveau des traitements. C'est certain que dans un premier temps, si le psoriasis n'est pas très sévère et assez localisé, on peut le contrôler avec différents traitements, des crèmes, des lotions médicamentées. Pour des psoriasis sévères, nous étions plutôt limités et vraiment depuis la dernière décade, il y a une explosion dans les traitements pour le psoriasis. Et alors qu'on se satisfaisait dans les psoriasis sévères d'une amélioration de l'ordre de 50%. Maintenant, on peut parler d'amélioration de 90 à 100% pour certaines... Puis ça, c'est même pour les conditions sévères. Beaucoup d'espoir.
Beaucoup d'espoir. J'ai très envie à ce moment-là qu'on se quitte sur ce chiffre-là d'espérance, parce que c'est vrai que je connais personnellement des gens qui vivent, qui font du psoriasis, et c'est extrêmement difficile comme condition. Alors, je suis heureuse qu'on ait pu en parler aujourd'hui sur Canal M. Dr. Julie Powell, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Dans la même émission, Aime la vie, je veux dire la même émission que celle à laquelle a participé la docteure Julie Powell, nous recevions, c'était Kevin Breton qui recevait France Remède Cardinal et qui nous parle cette semaine du vaccin contre la grippe.
Aujourd'hui, on va parler de la grippe, surtout comment rester loin de la grippe. C'est le terme du ministère de la Santé qui cherche à sensibiliser la population à se faire vacciner contre la grippe. Et ça s'adresse particulièrement aux personnes qui vivent avec une maladie chronique. Bonjour France, pourquoi est-ce qu'on doit se faire vacciner?
Bonjour. Alors, pourquoi se faire vacciner? C'est tout d'abord, bien sûr, pour se protéger de la grippe et de ses complications, parce que les complications peuvent être sérieuses, particulièrement chez les personnes qui sont fragilisées par une maladie chronique.
Qu'est-ce qu'on entend par maladie chronique?
Écoutez, maladie chronique, là, on parle du diabète, de troubles hépatiques, rénaux, hématologiques même, le cancer et d'autres, là. J'en passe, là. Mais en fait, ce vaccin-là, je pourrais peut-être vous parler des personnes admissibles pour le programme gratuit de la vaccination. Si on paie, tout le monde peut aller chercher le vaccin si on est âgé de 2 ans et plus, là. Mais il y a vraiment un programme de gratuité pour des personnes admissibles. Alors, je vais vous dire qui. Les personnes de 60 ans et plus. Aussi, les petits-enfants âgés de 6 à 23 mois. Évidemment, les personnes atteintes d'une maladie chronique, on en a parlé, un trouble cardiaque, pulmonaire aussi, que je pourrais rajouter à tout ce que j'ai mentionné tantôt.
Donc, si on a des troubles pulmonaires diagnostiqués, grâce à ce programme, on peut se faire vacciner gratuitement?
Oui, ce sont des troubles quand même qui nécessitent un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers.
Alors,
c'est ainsi qu'on les classe.
Est-ce que c'est
maintenant
la même chose?
Il ne faut pas oublier, il y a d'autres clientèles. Il y a les femmes enceintes en bonne santé au deuxième, troisième trimestre, mais aussi des femmes enceintes qui auraient un problème de santé, de maladie chronique. Bien, n'importe quand durant la grossesse, à n'importe quelle étape de leur grossesse, elles sont éligibles à l'automne au vaccin. Et les travailleurs de la santé, évidemment.
Oui, c'est ce que j'ai appris en lisant votre chronique, France. Les personnes qui vivent, donc les personnes dans l'entourage, des personnes âgées, des jeunes enfants, sont aussi admissibles?
Oui, c'est ça. J'y allais justement, c'est tout à fait vrai. Alors, on peut se présenter dans les différentes cliniques de vaccination en disant, ben moi, je m'occupe d'une personne âgée de 60 ans et plus, ou de jeunes enfants, ou d'une personne atteinte d'une maladie chronique, et automatiquement, on devient éligible au programme gratuit aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres démarches à entreprendre pour avoir accès à ce programme, où on a juste à se présenter dans une clinique de vaccination, donner une pièce d'identité prouvant qu'on a plus de 60 ans et on se fait vacciner?
Oui, on se présente tout simplement, mais il faut apporter notre carte d'assurance maladie. Mm-hmm. Et je vais un peu plus tard parler d'un site là, web et d'un numéro de téléphone où on peut communiquer là, pour connaître les dates et les heures, les lieux évidemment de ces cliniques-là, où se tiennent-elles dans chacune des régions du Québec. Maintenant, ça m'amène à vous parler aussi pour relier le sujet à ce qu'on se disait. On dit des complications hein, au niveau des maladies chroniques, mais ouais. Les gens se questionnent toujours hein, quel genre de complications. Mm-hmm. Alors, on peut parler de pneumonie, bronchite, sinusite, otite, par exemple. Ça peut amener à une hospitalisation et même au décès. Il faut savoir qu'au Canada, là, d'après les données mises par l'Agence de santé publique du Canada, on a observé en 2015-2016 plus de 5000 hospitalisations et 270 décès reliés à la grippe.
Seulement pour une année au Canada, quand même, ouais. c'est pas à prendre à la légère, en fait,
non.
La grippe, effectivement, parce que
non.
On entend souvent là, des cas de pneumonie qui dégénèrent, puis ça peut être très grave.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur l'importance de se faire vacciner. Oui.
Maintenant, comment on fait pour différencier une grippe d'un rhume?
Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. La plupart des gens mélangent les deux termes. Hein? On va dire j'ai une grippe alors qu'on a un rhume. Alors, écoute, la grippe, c'est une infection des voies respiratoires qui se transmet très facilement, qui est causée par le virus de l'influenza. Elle se distingue là, du rhume en ce sens qu'une personne qui va être atteinte de grippe aura en plus des maux de gorge, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et courbatures. Elle pourrait ressentir aussi de la nausée, des vomissements. Je voudrais juste revenir, là, rhume ou grippe, on peut avoir un mal de gorge et de la fatigue, mais en plus pour la grippe, c'est là qu'on a la fièvre, les maux de tête, etc. Puis l'écoulement nasal, les éternuements sont plus rares en cas de grippe, contrairement au rhume. C'est intéressant.
Uh-huh.
C'est là qu'on peut peut-être le différencier. Là, quand on a vraiment un écoulement nasal,
c'est un rhume.
Là, comme les érables au printemps, alors on peut penser qu'on a un rhume à ce moment-là, d'habitude.
C'est
en général.
C'est le symptôme le plus commun
ouais,
des rhumes.
Ouais. Et ce virus circule chaque année au Québec, surtout de la fin de l'automne au début du printemps. Alors, le virus de l'influenza, il faut se rappeler ça aussi.
Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur la forme que ça prend, ce fameux vaccin, pour contrer
oui.
l'influenza?
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle forme qui existe maintenant. Alors, on a la forme habituelle, le vaccin injectable, pour toute personne âgée de 6 mois et plus. Mais il existe aussi un vaccin intranasal pour les enfants et les jeunes âgés de 2 à 17 ans. Alors, ils peuvent recevoir le vaccin injectable, ils sont éligibles, mais ils peuvent aussi, au lieu du vaccin injectable qui fait souvent peur, les aiguilles.
Ouais, là, c'est une
oui.
manière de se sauver de ces fameuses aiguilles, si
oui,
je comprends bien.
Oui, ben, il y a une forme intranasale qui est plus facile à recevoir dans bien des cas, j'ai l'impression. Hein.
Donc, c'est par les voies nasales, mais est-ce que c'est un liquide qu'on injecte ou?
Non, ben c'est un peu comme un spray nasal.
OK.
Un spray nasal, comme quand on a la grippe, là, les petites bouteilles
oui,
en plastique.
Oui, oui. Bon, ah oui?
Quelque chose comme ça.
Ah, mais c'est tout nouveau, ça, comme méthode
oui.
d'intervention? J'avais
oui.
jamais entendu parler.
Oui, c'est tout nouveau. Et la particularité maintenant, pour les quand on parle de dose chez les enfants, là, quand il s'agit d'une première dose, pour les enfants de moins de 9 ans, il en faudra une deuxième dose. Mais à partir de 9 ans,
c'est
à 9 ans, là, c'est une dose est suffisante. Alors, il faut se rappeler de ça. Maintenant, cette campagne-là se déroule du 31 octobre au 11 décembre. Alors, on va en entendre parler beaucoup dans différents médias, dans les journaux aussi. Et le vaccin contre la grippe, lui, va être offert jusqu'à la fin de l'activité grippale.
Est-ce que parce que moi, je me
Alors,
suis souvent...
Alors, ça commence en novembre, en fait. Je suis allée voir dans les différentes régions. Début novembre, là, les cliniques commencent déjà à s'installer.
Moi, je me rappelle, je suis quand même allée assez souvent me faire vacciner quand j'étais jeune. Ça s'accompagne souvent de certains inconforts, soit au niveau des muscles ou des jointures. Est-ce qu'il y a des symptômes associés à l'injection d'un vaccin comme celui-là pour lesquels on devrait ou devrait pas s'inquiéter?
Oui, bien, en fait, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on a une douleur au site de l'injection.
Mm-hmm.
Mais certaines personnes vont avoir une rougeur, un gonflement à l'endroit où l'injection a été faite. Moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai toujours un gonflement puis une douleur, là. Je fais partie de ce groupe-là. Mais il y a des gens qui vont en plus avoir des douleurs musculaires, douleurs aux jointures, mal de tête, fatigue, perte d'appétit, somnolence, difficulté à rester éveillé, puis même être irritable. Bon, ça, ça reste comme dans les normes. Mais c'est sûr que si on se sent vraiment pas bien, on va consulter le médecin. Hein? Si on a une fièvre, on a des symptômes anormaux, on fonctionne plus, on va consulter.
Merci beaucoup, France. Et le site Internet que vous nous aviez parlé en début de chronique pour les informations, si on est admissible, c'est santé.gouv.qc.ca. Sinon, on peut toujours appeler Info Santé au 811. Merci beaucoup, France, pour ces précieuses informations. Puis sinon, n'oubliez pas de communiquer votre CLSC. Toujours une source d'informations pertinentes.
Absolument, le CLSC, oui.
Dans la brume, tu te croyais libre de sa prison, mais elle s'approche, tu l'entends, elle est sur tes talons. Il y a des années, ton cœur était à elle, elle t'a charmé, tu la trouvais si belle. Tout a changé, t'as vu son vrai visage, et tu t'es retrouvé enfermé dans sa cage. Et là tu cours comme un fugitif, recherché mort ou vivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sang. Viens te réfugier au pays de la liberté. Dans le bagne, t'attendais la quille. Tu ne pouvais sortir que les chaînes aux chevilles. Comme un gros boulet, tu la traînais derrière. Elle était lourde, 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 tu ne pouvais t'en défaire. Tu as creusé, creusé, un tunnel sous le mur. Tu as grimpé, grimpé par-dessus la clôture. Sonnaient les sirènes, aboyaient les chiens. Il était trop tard, tu étais trop loin. Et là tu cours comme un fugitif, recherché mort ou vivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sang. Viens te réfugier au pays de la liberté.
Rompe rapido las cadenas de la prisión. Deja el peso que está en tu corazón. Abre tus alas y vuela, vuela. No mires hacia atrás y entra, entra en el país del amor. País de la amistad, país de la paz, país de la libertad, la libertad.
Caché, caché dans tous les bas-fonds. Tu as changé, changé, changé de nom. Chaque fois que tu tentes de repartir à zéro, la voilà qui s'approche, elle te saute dans le dos. Déjà j'ai marché, marché dans tes souliers. J'étais captif, mais je me suis libéré. Saute dans le vide, fais ta prière. Viens me rejoindre, traverser la frontière. Il faut que tu cours comme un fugitif, recherché mort ou vivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sein. Viens te réfugier au pays de la liberté.
Et puis, dans le cadre de cette émission qui m'est chère, vous le savez, des livres plein les oreilles, le 26 octobre dernier, je recevais Rita Ezrati. Rita qui a lu pour nous « Un cri sous la glace » de Camilla Greb. Un drôle de polar, un polar pas comme les autres. Bonjour Rita.
Bonjour Clotilde.
Rita, une artiste complète, hein, vous faites de la peinture, vous faites plein de choses, vous.
Oui.
Vous êtes une très bonne lectrice aussi, vous lisez depuis quelques années maintenant déjà. Oui.
Petite
chez
dizaine.
Ah quand même.
Ah oui, oui.
Ah vous avez, oula, quand même, 11 ans.
11 ans, ouais.
Bravo, ça en fait du bouquin ça.
Oui. Je ne lis pas très vite moi, contrairement à d'autres.
Ok.
Donc, je n'ai pas une énorme série de livres, mais quand même, ça, je prends note. De temps en temps, je constate, ouais, j'ai lu tout ça.
Oui.
Ouais.
Et puis, vous faites de la peinture.
Je fais de la peinture. Ça, c'est ma deuxième profession. Ouais.
Alors, Ezrati, je vais vous le dire, Rita Ezrati. Hein. E-Z-R-A-T-I, c'est très beau. Et j'ai vu que c'était au départ un problème de vue avec vos yeux qui vous a amené à faire de la peinture, Rita.
Disons que j'ai toujours barbouillé, pas très sérieusement. Je menais une autre carrière. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un problème avec mes yeux. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder la télé, je ne pouvais pas être au soleil, etc. Donc, je me suis dit, puisque je ne vois pas très bien, je vais aller peindre. Et puis, peu importe, de toute façon. Et ça a déclenché quelque chose. Ah, à partir de ce moment-là, j'ai fait ça sérieusement. J'ai repris ma carrière, etc. Mais j'avais toujours ma peinture le week-end, tout le temps. Mais c'est un mal pour un bien, finalement.
Okay.
Avant, c'était comme un passe-temps. Oui, J'aimais bien barbouiller. Oui. C'est devenu une vraie passion.
Mais vous savez que j'ai appris récemment que le peintre Monet, impressionniste, était quasiment aveugle à la fin de sa vie. Et qu'en fait, les couleurs qu'on voit sur ses tableaux sont celles que lui pouvait voir. C'est pour ça que souvent, il n'y a pas de rouge violent, parce qu'il ne pouvait pas les voir.
Ouais, c'est bien, en fait, de transformer un malheur ou un mal en quelque chose de positif. Finalement, c'est toute une philosophie.
Bien sûr. Rita, on y va avec un bouquin ?
Elle
est fantastique, Rita, parce que parfois, elle nous arrive avec un truc religieux, philosophique, tout ça. Mais alors là, pas du tout.
Non, là, je vais vous parler d'un polar suédois plutôt glauque.
Oui, on aime ça aussi.
Qui s'appelle Un cri sous la glace. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est vrai qu'il y a un cri tout le long du livre, un cri silencieux.
Oui.
Sous la glace, on est en Suède, c'est Stockholm, c'est l'hiver, on est dans la slush tout le temps, c'est grisâtre.
Oui.
Mais bon, peut-être que ça a du sens en suédois, je ne sais pas. Alors dans un premier temps, ce n'était pas vraiment un coup de cœur. Non, si une copine l'avait passé, je ne serais peut-être pas allée jusqu'au bout.
Ah.
Mais au deuxième degré, il y a vraiment quelque chose là-dedans.
Ah,
ouais.
J'ai hâte que vous nous en parliez. Alors,
c'est un polar, parce que oui, ça commence par un crime, une femme assassinée, décapitée, la tête posée à côté d'elle, tournée vers la porte. Donc, c'est quand même assez moche. Donc, on attend une enquête normale. On s'attend à découvrir avec les policiers le pourquoi du comment. Ah ben, pas du tout. Pas du tout. Il y a plusieurs chapitres et les chapitres s'articulent, nous présentent à chaque fois un personnage, les personnages du livre. Il y a quatre personnages essentiels. Il y a Emma, qui est une fiancée secrète. Elle est fiancée au patron du grand magasin dans lequel elle travaille.
Et on ne le sait pas.
Ça ne doit pas être su. Ses copines savent qu'elle est fiancée, elle a un énorme caillou là, de 4 carats, mais le fiancé doit être tu, parce que selon lui, le patron ne peut pas sortir avec une employée, ça ne se fait pas. Alors donc, c'est secret. Il y a Peter, qui est un policier, et qui lui a des soucis aussi, il est divorcé, il ne s'occupe pas tellement de son fils... On l'accuse toujours de ne pas prendre ses responsabilités. Il est plutôt dépressif. Et puis, il y a Hanne, une criminologue qu'on appellerait peut-être maintenant une profiler, profileuse.
Ah bon ? Ah ben d'accord, ok.
à qui on fait appel parce que ce crime ressemble à un vieux crime d'il y a 10 ans qui n'a pas été élucidé. Donc, chaque chapitre nous présente Peter, Hanne, Emma, et puis Peter, Hanne. Voilà. Et par petites touches, on voit, on découvre ceci, on découvre cela. L'enquête piétine, ils ne savent rien, ils pataugent, ils n'ont aucune idée. Mais on patauge avec eux, Puis petit à petit, on se fait une idée. Mmh. Puis à la page 400, on s'aperçoit qu'on avait tout faux. La Camilla Grebel, hein, l'auteur, nous a menés en bateau pendant 400 pages. Et d'un seul coup, il faut tout revoir à l'envers. Parce que ce qu'on pensait comme ça, c'est « Ah, mais alors quand elle faisait ça ou quand il faisait ça, c'était parce que… » Alors ça, c'est quand même assez fort.
Oh, ah oui, bravo. Autrement dit, pour les gens qui vont écouter ce livre, soyez bien attentifs à tout ce qu'ils font.
Oui,
quoi. Parce que, que c'est intéressant.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque personnage, disons la Hanne, la criminologue, et Peter, sont aussi des personnages clés. En fait, tout ce livre, c'est un polar, mais c'est aussi une histoire d'amour ou de comment c'est dur d'aimer ou de désaimer. Mm-hmm. Comment c'est dur de vivre. Comment c'est dur de rompre. C'est beaucoup plus qu'un polar. L'enquête est assez secondaire.
Ah oui, hein?
Oui. Il y a un fil conducteur, mais c'est beaucoup plus poignant que ça.
Oui.
Une fois qu'on sait tout l'histoire.
Bien sûr. L'écriture, la traduction,
L'écriture est bonne. Oui. La traduction est bonne. Oui. On ne s'aperçoit pas vraiment que c'est une traduction. Je trouve que c'est bien. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve touchant, c'est que Hanne, la criminologue, est malade. Elle a une maladie, on suppose que c'est Alzheimer, mais elle veut faire l'enquête. Et elle a un rêve, c'est d'aller voir les Inuits du Groenland. Et ça revient tout le temps, parce qu'elle sait que le temps lui est compté et elle voudrait tellement y aller. Et c'est intéressant parce que chacun a une espèce de rêve, d'envie de vie meilleure et n'y arrive pas, ou peut-être va y arriver. Et ça, c'est beaucoup plus qu'un polar.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est un peu pour ça que j'ai voulu en parler, parce que vraiment, comme polar, c'est pas terrible.
Non,
mais il y a beaucoup plus autour.
Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Rita. Je trouve ça fantastique. Est-ce que vous me laissez le bouquin ou faut que vous le rameniez?
Pour moi, c'est fini.
C'est fini.
Je ne sais pas s'il faut le donner à la grande bibliothèque.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'il était réservé? Parce que vous savez qu'ici.
Qu'au début, je n'ai pas fait beaucoup de pub parce que je trouvais que ça n'avançait pas comme enquête.
Eh bien, il n'est pas réservé. Non. Alors, je le détourne pour mes vacances éventuelles. Mettons que je ne manque pas de lecture. Mais ça, c'est le genre de bouquin pendant les vacances.
Sur une plage.
Ça peut être sympathique. Oui. Rita Ezrati, mes amis, étaient avec moi. Merci beaucoup, Rita.
Merci, Clotilde.
Et puis, continuez votre beau travail de peinture et continuez votre bon travail au niveau du bénévolat en lecture. C'est très gentil à vous.
Ben, je vais continuer parce que j'aime ça. Ça me fait du bien.
D'accord.
À bientôt.
Voilà, on va faire une petite pause et on vous retrouve tout de suite après pour d'autres sujets. Le National sur les ondes de Canal M, c'est la deuxième partie, toujours animée pour vous par Clotilde Seille. Retour, si vous le voulez bien, à l'émission du 31 octobre, l'émission Accès libre, animée par Benoît Racette. Benoît Racette qui, en table ronde, se demande si la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées fonctionne bien. Il est en compagnie de Walter Zelaya, qui est directeur de l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, qui est aussi représentant du ROSEF. Il y a aussi autour de la table Laurence Perrou-Rousseau, directrice de la KEPS, ainsi que Renaud-Michel Haché, coordonnateur de la recherche, de la conception et du développement pour la CBDC Restigouche à Campbellton, au Nouveau-Brunswick.
Le travail, c'est, selon bien du monde, une des clés de l'inclusion. En fait, il faut peut-être même le prendre à l'inverse. L'aide de dernier recours, même quand on a des contraintes sévères à l'emploi, ça ne nous rend pas vraiment heureux, en général. Et les gouvernements de partout au Canada misent souvent sur des mesures, des programmes afin d'améliorer le travail des personnes en situation d'handicap ou l'inclusion au travail, on pourrait dire, mais aussi, et ça c'est vraiment déterminant, la perception, les attitudes discriminatoires. Donc, quelque chose comme les deux grands thèmes importants et ça nous amène à discuter avec les gens qui sont bien au fait pour faire un peu le bilan de ce qui est fait ces dernières années afin d'améliorer l'inclusion au travail. D'abord avec nous, un habitué, Walter Zelaya, qui est directeur de l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, mais qui représente aujourd'hui, le Rosef. Bonjour Walter.
Oui, bonjour Benoît.
Bonjour. Donc, vous allez aborder aujourd'hui avec nous notamment le volet 2 de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, les ententes avec Emploi Québec et la réforme de l'aide sociale.
D'accord.
Ça vous donne beaucoup de ministères en même temps, hein? Je sais que vous êtes capable d'abattre tout ce travail. Laurence Perrault-Rousseau, qui est directrice de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, va nous parler plus particulièrement de ses expériences à elle comme travailleuse culturelle, puis les difficultés aussi qui viennent quand on est en situation de handicap. Bonjour Laurence.
Bonjour Benoît.
Content que vous soyez de nouveau avec nous.
Merci.
Et au téléphone avec nous, en direct de Restigouche au Nouveau-Brunswick, Renaud-Michel Haché, qui est coordonnateur de la recherche, de la conception pédagogique et du développement de la campagne. Attention, retenez-le, là, ça cogne. Optez pour le talent, qui a été lancé par la Corporation pour le bénéfice du développement des collectivités. Donc, bonjour, Monsieur Haché.
Bonjour, Monsieur Rassette.
Content que vous soyez avec nous.
Le plaisir est pour moi.
Et on va en parler un peu plus tard de cette plateforme que vous avez collaboré à déployer. On a même un extrait là, d'un de vos vidéos. On vous revient dans peu de temps. Si vous me permettez, on va d'abord commencer sur les stratégies québécoises, puis on va se questionner ensemble ce qu'on peut faire partout au Canada pour abattre les problèmes de perception et le travail. Alors, Walter Zelaya, je m'adresse à vous en premier, si vous permettez. C'est quoi le bilan que vous faites du premier volet de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées qui a été lancée quand même en 2008?
Oui, exactement. Écoutez, c'est sûr que le bilan qu'on fait n'est pas nécessairement rose. Il faut commencer par dire que le gouvernement avait pris des engagements à ce moment-là, des engagements précis, et que malheureusement, ces engagements-là n'ont pas été respectés.
Ah oui, et dans leur majorité?
Moi, je dirais que les engagements les plus importants n'ont pas été respectés.
Okay.
Vous voyez, le gouvernement s'était fixé comme objectif de réduire de moitié le désemploi, le manque d'employabilité des personnes handicapées. De les réduire de 50 % en 10 ans.
Mm-hmm.
La stratégie était lancée en 2008, donc ça veut dire qu'en 2018, on devait avoir moins de 50 %. Évidemment, quand il est arrivé le moment de faire le bilan de premiers 5 ans, en 2013-2014, on s'est rendu compte que le gouvernement n'avait pas des données. Alors, il n'avait même pas des données pour pouvoir établir finalement à partir
En quelle année vous êtes rendu compte de ça?
En 2013-2014, alors on se rend compte qu'ils n'étaient pas en mesure de faire ces bilans-là. Mais de toute évidence, nous, on savait que le gouvernement n'aurait pas été en mesure d'atteindre ces objectifs-là, entre autres parce que les engagements qu'il avait pris pour ce que les investissements qu'il devait faire, notamment dans le cadre de contrat à intégration de travail, ce qu'on appelle communément les CIT.
Oui, le CIT.
L'argent n'était pas là.
Mm-hmm.
Le gouvernement...
Oui, il y a eu toutes sortes de tergiversations. On ne savait pas une année sur l'autre s'il y avait disponibilité de fonds. On accueillait quand même les demandes. C'était long avec le suivi. Bref, le CIT, c'est un des gros problèmes que vous avez.
Exactement. Alors, j'imagine. Jusqu'en 2013, le gouvernement aurait dû avoir investi 41 millions de dollars.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'était les engagements qui étaient... on aurait eu, c'est-à-dire un budget global pour l'ensemble de la province de 41 millions de dollars. Et au moment qu'on se parle, ça veut dire qu'on est quand même en 2017.
Ouais.
Ça, c'était pour les 5 premières années. On est entre 35 et 36 millions de dollars qui comportent les CIT. Donc, les engagements pour les 5 premières années n'ont pas été respectés. Alors, si vous voulez, c'est les mesures sur lesquelles on pouvait compter qui étaient donc n'ont pas été là, l'argent n'était pas là. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais moi, je me pose la question, est-ce que ces choses-là auraient été faites de toute façon, même s'il n'avait pas eu de stratégie comme telle? Alors, l'impact de la stratégie, on ne la voit pas.
Oui, parce que les CIT existent depuis combien d'années, les contrats d'intégration?
Ça fait plusieurs dizaines d'années. Disons qu'avant d'être gérés par Emploi Québec, ils étaient gérés par l'Office des personnes handicapées du Québec. Okay. Alors, ça, c'est la question de la stratégie. Donc, c'était des. Les intentions sont bonnes, la stratégie est bonne, les objectifs sont bons. Et le constat que fait le gouvernement et le constat que nous on fait, c'est-à-dire que les personnes handicapées restent quand même parmi les populations les plus éloignées, pas les plus éloignées, mais surtout les moins représentées sur les marchés du travail. Celle, donc, l'intégration au marché du travail est la plus lente.
Ouais.
Donc, c'est encore la difficulté est plus grande même que les personnes immigrantes, si vous voulez, que la situation des femmes et que même avec les autochtones, on n'est pas.
Puis il faut quand même avouer les indicateurs de l'employabilité des personnes autochtones des Premières Nations est très faible.
Est très faible.
Mais quand c'est même inquiétant.
Tout à fait.
C'est ça qu'on a tendance à ressortir. Là.
Tout à fait. Il est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il y en a moins de personnes autochtones sur le marché du travail. Mais quant à la progression, à l'intégration, même ça, ça a augmenté un petit peu plus. Vous voyez, les taux de la population en général, il y a un taux d'emploi des personnes qui normalement devraient être au marché du travail. On va parler des 79,9%, donc disons 80%.
Oui.
Et alors que celle des personnes ayant des limitations, on va parler de 39,7%. Alors, l'écart est quand même important.
Les gens sont condamnés à l'aide sociale, pratiquement. C'est presque ce qu'on peut lire. Là. Ça fait presque 60% des gens qui n'ont pas de revenus d'emploi.
Exactement. Alors, c'est quand même important le nombre de personnes. Et ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a un très grand pourcentage qui pourrait très bien intégrer le marché du travail à condition qu'on offre les moyens à ces personnes-là. Alors, quant au constat, je pense que le gouvernement fait le même constat que les ressources en employabilité, donc le RECEF fait. Alors, on fait les mêmes constats. Maintenant, on espère, le gouvernement s'est engagé à revenir sur le deuxième volet, donc pour 5 ans, avec le deuxième volet de la stratégie. On attend. On nous dit que ça devrait, la stratégie devrait apparaître ou devrait être publiée à quelque part au printemps 2018.
Donc, on l'attend évidemment. On espère plus d'argent, même peut-être pour compenser l'argent qui n'a pas été donné dans le premier volet. Mais donc, est-ce que vous trouvez que c'est bien engagé pour le volet 2 de la stratégie nationale pour l'intégration? Est-ce que vous croyez que ça ira mieux? Surtout qu'on est en période électorale.
Nous, on le souhaite que par hasard, ça va être présenté au printemps. Par hasard, c'est quelques mois avant les élections.
Ouais, voilà.
Alors, on souhaite qu'il y ait. Quant à nos demandes, nos revendications, c'est que le gouvernement investisse 5 millions de dollars par année pour les CIT au cours des 5 prochaines années. Nous, on demande aussi une augmentation, d'augmenter le bassin des personnes handicapées actives sur le marché du travail, donc de mettre l'accent sur cet élément-là. Et à ce niveau-là, de rehausser les cibles d'admission dans les organismes qui reçoivent des personnes handicapées. Il faudrait dire qu'on est très limité.
Donc, il y a plus de gens qui soient aidés ou soutenus par les mesures d'employabilité, notamment communautaires. Walter Zelaya, vous êtes directeur de l'organisme Emo Québec, mais aujourd'hui, vous représentez le RECEF. On va ajouter les liens pertinents là, au bas de notre page pour que les gens comprennent bien là, où on va. Avant de voir comment on peut lancer et promouvoir les personnes en situation de handicap autrement sur le marché du travail avec Renaud-Michel Haché, je me retournerai vers Laurence Perrault-Rousseau, qui est directrice de la CEPS et qui a été longtemps une travailleuse culturelle. On dit que pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre l'inclusion au travail, il faut faire preuve de créativité, mais ce n'est pas tous les milieux où c'est possible.
Où c'est possible. Et je tiens à dire en partant que je ne veux pas faire une charge à front de train contre le milieu culturel que j'aime beaucoup.
Ouais.
Mais c'est un des milieux le plus complexe au niveau de l'inclusion, à mon avis.
Ouais.
Parce que, les lieux de travail ne sont pas nécessairement toujours fixes. Alors là, essayez de convaincre un chauffeur de transport adapté que vous allez travailler en pleine tempête, en plein hiver, dans un lieu qui n'est pas régulier, c'est complexe.
Oui, c'est très complexe. Même quand c'est un café, par exemple, puis là, en période de tempête, on pourrait vous empêcher d'y aller parce qu'on ne vous croit pas quand vous dites que c'est pour rencontrer un client pour acheter vos rideaux.
Exact.
Par exemple.
Exact. En tant que travailleur autonome, tu ne travailles pas toujours dans ton bureau.
Oui.
Puis, en fait, tu disais que en entrée de jeu que j'ai travaillé longtemps dans le milieu culturel, mais en fait, j'ai essayé.
Oui, ben c'est ça, vous avez étudié dans le milieu culturel.
J'ai étudié, ouais, puis ouais. J'ai essayé de travailler là, mais ça n'a jamais bien donné, dans le sens où à chaque fois que je passais une entrevue, oui, ça fonctionnait très, très bien. Mais, par exemple, les 35 heures semaine étaient non négociables. Moi, c'est sûr que mon énergie ne me permet pas de faire ouais. ça. Je pense pas être la seule en situation de handicap qui vit ce problème. Mm-hmm. Donc, c'est un milieu qui est très demandant et qui... on doit donner beaucoup et c'est normal. C'est tout à fait normal ouais. parce que...
Oui, en fait, on comprend pas quand les gens ne vont pas au-delà de leurs limites.
Exact.
C'est presque ça qui est commandé dans le monde du théâtre, de la télévision, par exemple, dans la production. Hein,
exact.
C'est
ça. Mais je pense que une personne en situation de handicap qui a une certaine limitation peut quand même faire un très, très grand travail mm-hmm. sans nécessairement faire le 35 heures semaine.
Et donc, il faut être créatif, ouvert,
exact.
Inclusif. J'aimerais vous faire entendre quelque chose, auditeurs, auditrices, et on va voir comment on peut, pas juste ensoleiller ça, mais donner le goût aux employeurs d'être plus inclusifs.
Nous croyons sincèrement que le plus grand obstacle, en fait, c'est vraiment la perception du handicap. Et on trouve ça important de modifier cette perception-là pour que le focus soit fait sur la situation handicapante et non pas sur la personne et son handicap.
On ne peut pas dire mieux. C'est une vidéo qu'on retrouve sur la plateforme dont je vais vous parler avec un de ses créateurs. Donc, Renaud-Michel Haché est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette plateforme que vous avez lancée, dites-nous de quoi il s'agit exactement?
En fait, c'est un grand projet national. C'est un site web avec des éléments interactifs mm-hmm. qui a pour but là, d'informer les employeurs à propos des stratégies pour augmenter leur efficacité dans l'embauche des personnes en situation de handicap.
Ah bien, bon.
Alors, en deux mots, Opter pour le talent, c'est une trousse de 10 outils thématiques là, qui se déclinent en plusieurs fiches d'informations qui sont faciles à consulter et qui portent sur l'ensemble du processus d'embauche. Donc, on vise vraiment l'employeur pour l'aider là, dans ses stratégies de recrutement, aller du recrutement, aller jusqu'à la rétention des employés en situation de handicap. Mais j'aimerais aussi parler d'entrée de jeu que le projet Opter pour le talent, l'information qui s'y trouve, s'applique à tous les employeurs et pour tous les employés aussi. Mm-hmm.
Donc, c'est tout le monde, oui. Effectivement, c'est pas seulement aux employeurs à qui ça s'adresse.
C'est un projet inclusif, oui, c'est ça, oui.
C'est inclusif, c'est les deux côtés. Pour qu'inclusion, il faut que tout le monde travaille ensemble, plus ou moins.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et dans vos fiches, on parle entre autres de cette perception qui explique que parfois c'est les peurs, les angoisses, la méconnaissance des employeurs qui peut faire que les employés ne sont pas appelés comme futurs employés. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site Opter pour le talent qui pourrait convaincre ou qui pourrait changer peut-être le regard des employeurs?
En fait, on a abordé le contenu. On a travaillé bien sûr avec des experts, puis j'aurai peut-être l'occasion d'en jaser un petit peu tantôt, mais on a consulté des employeurs dans des groupes de discussion. Puis avec plusieurs des employeurs, ils nous ont indiqué là, que, et puis la recherche aussi, là, la demande, la revue de littérature le démontre aussi, c'est que les employeurs sont très peu confiants mm-hmm. dans leur embauche de personnes en situation de handicap. Ils manquent d'informations, ils manquent de savoir-faire, ils sont insécures dans ce processus-là. Alors nous, avec la trousse Opter pour le talent, on cherche à combler ce besoin d'informations et de savoir-faire auprès des employeurs.
Et peut-être vous pourriez nous décliner quelques-unes de vos 10 fiches. Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement?
En fait, chacun des outils a plusieurs fiches d'information. On a voulu avoir un message très simple, quelque chose qui est très clair pour l'employeur. Il y a trois grands groupes, si on peut dire. Le premier groupe, c'est des informations, par exemple, quels sont les avantages corporatifs, comment mm-hmm. on peut améliorer ou qu'est-ce qui améliorerait l'image de l'entreprise, comprendre c'est quoi un handicap, toujours aussi la perspective, on s'adresse toujours à l'employeur. Et aussi, en fait, les employeurs nous ont partagé c'est quoi les enjeux juridiques là, qui peuvent entrer en ligne de compte.
Oui, parce qu'il y a quelques obligations quand même. Là. Il y a évidemment des obligations différentes. Et certaines viennent du fédéral, tout dépendant des secteurs, d'autres de sa province. Mais
je suis resté curieusement, par contre, ces obligations-là s'adressent à tous les employeurs dans tous les contextes d'embauche.
Ah oui, c'est ça.
Hein? Alors, c'est pour ça que ça s'adresse à tous les employeurs et on veut démystifier le fait, là, on veut donner la vraie information. On a travaillé avec des avocats qui nous assurent là, que l'information qu'on partage, là, elle tient pour le Canada. Là.
Bon. Est-ce que c'est la meilleure manière de convaincre les employeurs quand on leur dit « vous n'avez pas le choix
» Ben, en fait, on cherche à les informer et on cherche à démontrer les avantages et on cherche à démontrer les habiletés, les compétences et les compétences et les habiletés que les personnes en situation de handicap peuvent apporter. Qu'est-ce que ça propose, qu'est-ce que ça l'emmène de créer un milieu de travail inclusif aussi.
C'est ça, c'est la plus-value de l'inclusion que vous défendez beaucoup dans Opter pour le talent.
Effectivement. Les statistiques le démontrent très clairement là, par rapport à la motivation des employés. L'ensemble de l'équipe est plus motivé et tous les autres avantages là, qui sont déclinés. Là,
donc, vous avez entendu Walter Zelaya qui représente le ROSEF sur la stratégie du Québec. Est-ce que vous avez remarqué des disparités entre les provinces sur la question de l'intégration des personnes en situation de handicap au marché du travail?
Effectivement, le Canada, c'est un très vaste pays, puis il y a plusieurs différences entre les provinces quant aux approches puis aux priorités là sur la question de l'intégration au travail des personnes en situation de handicap. Mais c'est justement ce que Opter pour le talent cherchait à combler, c'est-à-dire peut-être on a voulu présenter un contenu rassembleur, un genre de, je dirais pas une mise à niveau, là, mais un ensemble pour le pays où tous peuvent y trouver quelque chose puis puiser pour trouver des informations qui répondent davantage à leur région.
Donc, en fait, cette plateforme-là vise quelque chose que tous les gens vivent au Canada, c'est-à-dire, justement, la perception, changer la perception, peut-être être mieux informé sur ce que peut donner, apporter à une organisation que d'être inclusif.
Oui, en fait, vous avez mentionné un peu les vidéos. C'est une bonne partie du site web. On a 5 vidéos en français, 5 vidéos en anglais qui sont produites spécifiquement pour le projet Opter pour le talent. Et on y retrouve plusieurs témoignages d'employeurs et d'employés en situation de handicap. Mais principalement les employeurs qui parlent aux employeurs et qui mentionnent les avantages et les bénéfices qu'une embauche inclusive peut apporter à l'entreprise.
Bon. Et Walter Zelaya du ROSEF semble vouloir rebondir. Oui. Je lui donne quelques secondes,
oui,
si vous permettez.
Oui, c'est ça. Juste vous dire que ce que vous dites, la perception est extrêmement important. Il y a une étude qui est apparue ce printemps qui est amenée par un professeur de l'Université Laval, Charles Belmar, dans lequel ils ont envoyé des CV à des entreprises et dans les CV dans lesquels on indiquait ceux qui avaient un handicap physique, donc qui étaient en fauteuil, et ceux qui n'en avaient pas. Les convocations en entrevue étaient 31% pour ceux qui n'avaient pas de qui ne soulignaient pas le handicap et de 13% pour ceux qui indiquaient le handicap. Ça vient donc, et là, les entreprises qui ont été ciblées, ce sont des entreprises qui avaient toute l'accessibilité, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas dire c'est par manque d'accessibilité qu'on ne les appelait pas en entrevue. Ça démontre donc que le problème de la perception est important.
Donc, je vais devoir fermer l'orchestre. Vous avez été de belles voix pour souligner qu'il faut continuer à œuvrer pour, en fait, promouvoir le talent des personnes en situation de handicap. Walter Zelaya, directeur de l'organisme Mémo Québec, représentant du ROSEF, merci beaucoup.
Merci bien.
Laurence Perrault-Rousseau, directrice de l'ACEPS, merci.
Merci.
Et Renaud-Michel Haché, qui est coordonnateur de la recherche, de la conception et du développement pour la CBDC, Aristigouche, Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et on retrouve, je vous rappelle, en bas de cette page, toute l'information pertinente sur non seulement les organismes des gens qui viennent ici à bord, mais aussi pour retrouver Opter pour le talent.
Quand tu Tu sais que c'est aussi chez moi. Chez ta mère, il y a tes frères, tes soeurs, ta mère, le chien et ta grand-mère.
Vaut mieux que le temps que j'ai avec toi autour de moi soit d'or et d'argent.
Mon âme ensemble, ce qu'il y a de nous, parce que l'on est ensemble, nous vivons vraiment mieux.
Et par actualité, maintenant, cette semaine, on revient sur deux sujets. D'abord, ce jeune Winnipegois qui a été amputé des deux jambes et qui affronte maintenant son avenir. Également, une étudiante qui milite pour l'accessibilité de l'Université d'Ottawa qui se voit récompensée. On retrouve tout de suite Hélène Denis.
Amputé des deux jambes, un jeune de 20 ans affronte l'avenir. C'est sur le site de Radio-Canada. Le 17 septembre, Elijah Gunner a vu son avenir fauché par un train après une nuit d'ivresse qui lui a coûté ses deux jambes à Winnipeg. Il s'est depuis promis de reprendre sa vie en main, mais le jeune qui a reçu son congé de l'hôpital plus tôt qu'il ne pensait ne sait pas par où commencer. Il raconte qu'il était ivre le soir de l'accident et que la dernière chose dont il se souvient est d'avoir quitté une fête vers une heure pour acheter des cigarettes. Elijah Gunner affirme que son accident lui a ouvert les yeux et l'a incité à devenir sobre. Le jeune a appris jeudi qu'il recevait son congé de l'hôpital vendredi, alors qu'il dit qu'au départ, on l'avait informé que sa convalescence durait 5 mois. Vendredi après-midi, même s'il apprenait qu'il peut rester jusqu'à lundi matin, Elijah a décidé de quitter l'établissement. Pour l'instant, la seule option qui s'offre à lui est de retourner vivre dans le salon de l'ami qu'il hébergeait avant l'accident. Mais il y a deux gros problèmes. Le premier est le manque d'espace, car la pièce est petite et Elijah croit que se déplacer dedans sera pire avec un fauteuil roulant. Le deuxième problème qui l'inquiète le plus est celui de la tentation de retourner à son ancien mode de vie. À 20 ans, Elijah doit désormais envisager sa vie sans ses jambes. Quand j'avais encore mes jambes, je voulais m'engager dans l'armée et revenir pour devenir travailleur social et ouvrir un foyer d'accueil, confie le jeune homme qui a lui-même passé toute sa vie en foyer. « Je vais devoir passer directement à cette étape », plaisante le jeune homme qui souhaite commencer des études quand il le pourra. La mission d'Elsa Lalonde, la franco-ontarienne Elsa Lalonde, 21 ans, milite depuis 3 ans pour que l'Université d'Ottawa améliore l'accessibilité sur son campus aux personnes handicapées. Ses efforts ont été récompensés cette semaine alors qu'on lui a décerné le prestigieux prix Dr. John Davis Burton, qui reconnaît la contribution exceptionnelle d'un étudiant des universités et des collèges d'Ottawa à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. Le Droit et Radio-Canada la félicitent à leur tour en lui décernant le titre de personnalité de la semaine. Elsa Lalonde se déplace en fauteuil roulant depuis qu'un grave accident de ski survenu en 2009 alors qu'elle était âgée de 12 ans lui a presque coûté la vie et l'a laissée paraplégique. Et à son arrivée à l'Université d'Ottawa pour poursuivre ses études en sciences sociales, cette diplômée de l'école secondaire publique Gisèle Lalonde a vite constaté plusieurs lacunes sur le campus en ce qui a trait à l'accessibilité pour les personnes handicapées. « En tant qu'étudiante qui se déplace en fauteuil roulant, dit-elle, j'ai fait face à beaucoup de difficultés pour avoir accès à mes classes dans certains locaux. Je n'ai donc pas le choix de me battre pour que l'université améliore l'accessibilité aux personnes handicapées. » En plus de ses études universitaires à temps plein, Elsa Lalonde travaille à temps partiel comme analyste au Bureau de la condition des personnes handicapées du Canada, où elle contribue à l'élaboration d'une loi pour l'accessibilité dans les édifices et lieux fédéraux.
Voilà, ainsi s'achève le National cette semaine. Je voudrais remercier toute l'équipe qui rend possible cette émission et j'ai même le temps pour les nommer. Jean-Sébastien Laliberté, Mathieu Tessier, Hélène Denis, Kevin Breton, Benoît Rassette, Anne-Laure Janson, Christiane Campagna et Marc Britant. Pour plus d'informations, pour écouter nos émissions ou entrevues, visitez canalm.vusezvoix.com. À la semaine prochaine.